Une avancée significative dans les biocarburants pourrait avoir un effet secondaire vraiment dommageable. Car si nous produisons des récoltes qui fournissent ces combustibles d'une manière aussi érosive que celle utilisée avec le maïs en agriculture traditionnelle, nous changerons un système d'exploitation du pétrole pour un système d'exploitation du sol, auquel cas nous ne faisons que retarder l'échéance d'un désastre. Vous pouvez imaginer deux avenirs possibles. Soit on continue de cultiver selon l'agriculture traditionnelle basée sur le labour intensif, et ça finira par épuiser le sol. Et ultimement, les sols agricoles très fertiles, fortement productifs, deviendront précieux et convoités. Une sorte d'élément central dans l'organisation de la réalité géopolitique. Pourquoi ? Bien, parce que le sol est la ressource fondamentale. Soit on cultive selon les techniques agricoles dictées par l'agriculture biologique intensive et le semis direct, c'est-à-dire des techniques qui permettent de produire de grandes récoltes sans épuiser le sol. Elles peuvent même l'améliorer. Ça encouragerait les petites fermes biologiques qui emploient beaucoup de main-d'œuvre et soutiendrait le mouvement manger local. Deux avenirs très différents, mais tous deux tout à fait possibles. Et les processus qui nous mèneront vers un avenir ou l'autre vont évoluer en fonction des choix alimentaires et monétaires des consommateurs et de ce que les gouvernements vont encourager, subventionner et pénaliser ou réglementer. L'avenir nous est grand ouvert. Si vous regardez l'histoire de nombreuses civilisations antiques, elles partagent un scénario commun. L'agriculture a commencé au fond des vallées, le long des rivières, dans des sols drainés par de l'eau qui les rend naturellement fertiles. Des sols érodés de haute terre jusqu'au bas des vallées. Année après année, chaque inondation laisse une nouvelle couche de vase. C'est comme ça que ces sols se forment. Et comme ils se régénèrent naturellement, ces sols peuvent être cultivés pendant de nombreuses années. Au sens large, si vous regardez l'histoire de la civilisation occidentale, vous verrez que les débuts de l'agriculture ont eu lieu dans les plaines inondables le long du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. Que beaucoup de civilisations antiques sont nées dans des environnements alluviaux, des civilisations centrées sur les rivières. Ces civilisations se sont rendues compte qu'elles pouvaient davantage cultiver et sur de plus petites parcelles de terre, qu'elles pouvaient nourrir beaucoup de personnes. À partir de là, leurs populations ont commencé à augmenter. Les hautes terres étant peu à peu habitées, les mêmes techniques agricoles furent utilisées sur les versants des collines. Mais sous le passage répété des charrues, ça ne prend que quelques siècles, voire 1000 ans, pour que les versants des collines soient érodés. La Grèce a entre autres commencé à labourer les versants de ces collines. Et les Romains, eux, y ont vraiment pris goût car ils allaient jusqu'à labourer 6 à 9 fois par année selon le type de sol. Au bout de quelques siècles, ils ont littéralement repoussé les terres cultivables de la région centrale de Rome. Et ce, jusqu'à ce que l'Empire romain s'effondre quelques siècles avant Jésus-Christ. En Europe de l'Ouest, certains sols situés près des collines furent labourés, d'autres non. Et en Amérique, les gens étaient à la recherche de nouvelles terres fertiles. La fameuse conquête de l'Ouest fut donc, en quelque sorte, alimentée par l'épuisement des sols de la côte Est. Avec l'arrivée de la charrue en Europe et en Amérique du Nord, les sols désormais exposés une bonne partie de l'année au vent et à la pluie ont subi une érosion beaucoup plus rapide que lorsqu'ils étaient recouverts de végétation indigène.